Vous avez bien une anecdote à nous raconter.
Ah oui, je vais vous raconter.
Le témoin de ce vendredi, Delphine Horwiller, Madame le Rabbin.
Les enfants, dès l'âge de 5 ans, étaient soumis à une initiation à l'étude. Alors on faisait ça de façon très solennelle. L'enfant était emmené devant le rabbin, on lui lisait des versets. Les premières lettres et les dernières lettres de l'alphabet étaient inscrites sur des ardoises. Et on recouvrait ces lettres de miel. L'enfant devait les lécher. Alors c'était un peu les précurseurs de la pédagogie moderne. On associait la lettre, l'étude, à la douceur.
C'est une histoire qui remonte au XIe siècle. Le sage Rashi avait fondé une école rabbinique de haute réputation, près de Troyes, l'une des grandes villes de foire de Champagne. Y régnait, dit la tradition, la joie de lire. C'est le souffle des enfants qui étudient, qui fait avancer le monde. L'héritage n'est pas l'affaire de vieillards qui répètent, mais d'abord d'enfants qui questionnent. C'est pour cela que la tradition invite non seulement à lire, mais à relire et sans cesse interroger. Qu'on en soit proche ou éloigné, la tradition juive en dit long, on le voit, sur la marche de l'histoire. Ce n'est pas un récit linéaire avec son cycle de causes qui entraînerait son cycle de conséquences. Nous ne sommes pas prisonniers de ce que nous sommes devenus. L'histoire se considère à partir de ce qui va advenir. C'est toujours la génération montante qui l'a fait. C'est pour cela que le passé, tissé de découvertes et de surprises, reste imprévisible.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Delphine Horwiller, Madame le Rabbin, bonjour.
Bonjour.
Qui aurait pensé qu'il y aurait aux États-Unis des centaines de femmes rabbins et en France une, deux, trois. Vous êtes trois maintenant, issus d'un mouvement minoritaire du judaïsme, mais qui peut se fonder sur sa part de tradition. Vous aimez, c'est le cas dans le livre que vous venez de faire paraître chez Grasset, Comment les rabbins font les enfants, vous aimez citer l'exemple d'une sage, une sage, j'ai bien dit, du Talmud, qui s'appelle Beruria.
Oui, on s'imagine que les femmes érudites ou les femmes rabbins, c'est une spécialité du 21e siècle ou du 20e siècle. En réalité, pas du tout. Il y a dans le Talmud, non pas des rabbins, mais des femmes érudites, des femmes sages. Et l'emblème de celle-là, c'est peut-être Beruria, qui était l'épouse d'un certain Rabbi Meir dans le Talmud. Et le Talmud nous raconte qu'elle était ô combien sage, qu'elle était capable d'enseigner la loi plus que les hommes de son temps. Donc c'est un peu une héroïne du Talmud. A-t-elle existé? N'a-t-elle pas existé? Finalement, c'est pas aussi important que d'accepter le fait que les rabbins ont besoin d'elle dans le Talmud,
oui,
de cette érudition féminine.
On peut toujours opposer un commentaire à un autre dans la tradition juive. Notre ami Rashi, avec qui on vient de faire connaissance, 11e siècle, 3, on raconte des choses étranges sur Beruria.
En tout cas, on dit qu'il en raconte. On lui attribue un commentaire. S'agit-il d'un commentaire de Rashi ou bien lui attribue-t-on en tant qu'autorité ce commentaire? Voilà qu'au XIe siècle, tout à coup, surgit un commentaire sur Beruria qui suggère que Beruria aurait fauté, doublement fauté, qu'elle aurait commis à la fois l'adultère et qu'elle se serait suicidée. Double faute, double peine. En réalité, on se demande si on n'avait pas besoin au Moyen-Âge d'assassiner Beruria, cette héroïne du Talmud qui ne posait de problème à personne, semble-t-il, au détour du 1er, du 2e siècle, et bien voilà qu'au Moyen-Âge, elle devient l'individu à abattre. Il faut à tout prix se débarrasser de Beruria, comme si le féminin érudit posait un problème terrible.
Mais voici qu'au 20e siècle, il y a des femmes rabbins. La première, que vous aimez citer aussi, était en Allemagne dans les années 1930. Alors, vous n'aviez pas l'idée préconçue d'être rabbin, on ne va pas raconter votre vie, mais c'est quand même, me semble-t-il, à vous lire un puzzle des études de médecine en Israël, des études de journalisme en France, un séjour à New York. Vous avez recomposé des morceaux épars d'une vie dont vous ne saviez pas où elle allait aboutir.
Non, j'étais loin de m'imaginer que je deviendrais rabbin. Moi, j'ai grandi dans un monde juif assez traditionnel où il n'y avait pas de modèle féminin de rabbinat. Et puis, je me suis cherchée, comme beaucoup de gens, je me suis mis en chemin vers moi-même. Et ça m'a fait passer, effectivement, par des études de médecine, par du journalisme. Et finalement, pour arriver au rabbinat, à l'étude du texte, une étude du texte qui m'a toujours passionnée, intéressée. Et je crois d'ailleurs que ce que j'avais cherché dans la médecine et dans le journaliste, c'est exactement ce que je cherchais dans le rabbinat, à savoir la centralité de l'écoute, l'importance de la traduction d'un langage à un autre et la reconnaissance de que l'expérience de l'autre est suffisamment sacrée pour qu'on s'applique à la traduire.
Vous êtes une obsédée textuelle. Enfin, c'est une formule que j'emprunte au rabbin Waknin, qui tient maintenant les émissions religieuses juives
Absolument.
De France Culture. Je vais vous faire entendre celui qui, depuis la plus haute antiquité, 1962, tient les émissions religieuses juives à la télévision publique. C'est le rabbin Eisenberg. Il évoque ici la figure d'Abraham. Livre de la Genèse, on revient aux sources où on va voir que toute transmission est aussi une transgression, que toute formation est aussi rupture.
D'Abraham, nous connaissons beaucoup de choses, non pas par la Bible, mais par l'ensemble des textes de la tradition juive. Nous savons qu'il appartient à une civilisation d'idolâtres, cela d'ailleurs la Bible le confirme. Nous connaissons son père, c'est un homme qui s'appelle Terach, et nous savons par la tradition juive qu'Abraham appartient à une famille d'idolâtres. Mieux, dit une légende, son père était un marchand d'idoles, et Abraham s'est signalé à l'attention publique le jour où, avec une hache, il a brisé le stock d'idoles de son père, et on sait que les briseurs d'idoles ont souvent la vie difficile. Abraham a donc eu une vie difficile, il a été persécuté, et il va rompre avec son milieu. Abraham, dit la tradition juive, c'est précisément une étincelle, parce que ce petit homme, lancé dans ce grand monde païen, c'est cette petite étincelle qui, à l'intérieur de chaque homme, lui demande précisément de surmonter le monde dans lequel il vit.
Oui, mais ce qui rend perplexe dans la tradition juive que cite Josie Eisenberg, je ne veux pas couper les chemins en quatre, mais c'est qu'il y a toujours deux interprétations possibles. Et c'est le cas quand il s'agit des rapports d'Abraham et de son papa.
Absolument, il y en a deux, je dirais même au minimum, vous connaissez la blague, il y a deux juifs, au moins trois interprétations. Et bien pour le cas de l'histoire d'Abraham, c'est ça, il y a deux façons de lire cette histoire, au moins une façon de la lire qui est la plus traditionnelle, qui consiste à dire, comme on vient de l'entendre, qu'Abraham c'est l'iconoclaste, celui qui rompt radicalement et qui du passé fait table rase, il n'a plus rien à voir avec le monde de ses origines. Et pourtant quand on relit le texte biblique, en tout cas quand on remonte quelques versets en amont de son départ, eh bien on
un
se rend compte,
un peu plus haut dans le livre de la Genèse.
Un peu plus haut dans le livre de la Genèse, vraiment quelques versets plus tôt, son père, le fameux Terach, est celui qui quitte Ur en Chaldée, ce qui nous permet donc de nous interroger, est-ce qu'Abraham est celui qui innove, qui crée un nouveau chemin, ou bien est-ce que d'une certaine manière il poursuit autrement le voyage de son père. Et cette question qui est adressée à Abraham, elle est adressée à chacun d'entre nous. Dans quelle mesure est-ce qu'on est des révolutionnaires? Dans quelle mesure est-ce qu'au cœur de nos révolutions et nos changements de paradigme, on est pleinement les héritiers de nos pères?
Mais dites-moi, la tradition biblique établit clairement que le juif l'est par l'héritage de sa mère.
Non.
Non.
En réalité, non. C'est un malentendu du judaïsme qu'on entend bien souvent de façon très schématique. C'est qu'on serait juif par sa mère ou parce qu'on aurait une mère juive. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que cela. D'abord, dans la Bible, ce n'est pas du tout vrai puisque la plupart des transmissions dans la Bible se font par la voix du père. La plupart des héros masculins de la Bible épousent des femmes qui ne sont pas des femmes du peuple hébreu et pourtant très clairement leur descendance s'inscrit dans la fidélité au peuple et dans la pleine inscription patrilinéaire par le père. Il y a, semble-t-il, eu un virage plus tard dans l'histoire juive, au moment du Talmud, au moment des sages, de ce qu'on appelle la Mishnah, où soudain, une certaine transmission identitaire passe par la mère, mais là encore, pas dans tous les cas. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. En réalité, c'est très compliqué de répondre à la question par où et par quoi passe la transmission, ou même par qui.
Vous parlez du Talmud, dont vous pouvez situer aux auditeurs qui sont éloignés de la tradition juive, la datation.
Voilà, le Talmud, c'est la loi orale du judaïsme, et elle a été éditée sous la forme de ce qu'on appelle la Mishnah au deuxième siècle de notre ère. Une succession de traditions orales qui sont éditées au deuxième siècle, et puis qui continuent d'être interprétées par les sages entre le deuxième et le sixième siècle de notre ère. Ça donne le Talmud, tel qu'on le connaît.
Qu'est-ce que c'est qu'une école talmudique?
Une école talmudique, c'est un lieu où on apprend le Talmud, où on étudie en général dans le bruit. D'ailleurs, c'est le contraire d'une bibliothèque, une école talmudique. C'est peut-être à ça qu'on pourrait le définir. C'est un lieu où il n'y a pas de silence, un lieu où on étudie avec des maîtres, avec des partenaires d'études.
Reportage chez Josie Eisenberg, toujours télévision française.
Le verset numéro 8.
Vesochad lotikar, ki yasochad yaver pikrin, veyisalev divre tzadikim. Les cadeaux corrupteurs, tu ne les accepteras pas, car les cadeaux corrupteurs...
Lotikar, tu n'en prendras pas.
Oui.
Et on va regarder justement comment Rachid nous explique un petit peu ce passage. Alors si tu veux lire toi maintenant le Rashi, le premier.
Véchorad, l'Oticar et des cadeaux corrupteurs, tu ne les accepteras pas.
Oui, le cadeau corrupteur, l'Oticar, tu ne l'accepteras pas. La phrase n'est pas au pluriel.
Aphilou, Lispot et Maître, même si c'est pour juger des jugements véridiques, Vécol, Cheken, il y a plus forte raison qu'aider Léatot est indigne pour faire pencher un jugement.
Alors, juxtaposition, confrontation des commentaires, on a entendu encore une fois le nom qui nous devient cher de Rachid, mais Delphine Horvilleur, à vous lire, je pensais qu'il y avait plus de questions des enfants à l'école talmudique. Vous dites que de l'école talmudique à la fête de la Pâque, par exemple, que vous observez en détail, c'est la question de l'enfant qui commande.
Le récit, effectivement, de la Pâque juive, où on commémore la sortie d'Égypte, grand dîner de récit qui a lieu tous les ans dans le calendrier juif, c'est un bon exemple de ça, de cette modalité de transmission, de passage d'une génération à l'autre. On ne peut pas, ce soir-là, commencer à raconter la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le récit mythique du judaïsme, sans qu'un enfant ou plusieurs ait posé une question, comme si aucune transmission n'était possible si elle ne débute pas par une interrogation de la génération suivante, qui arrive et qui, par son sens critique, par sa capacité à poser des questions, va questionner les fondements. Voilà, c'est le cœur de la transmission, qui est d'ailleurs toujours un exercice de traduction. On l'entendait très bien dans l'extrait qui vient d'être diffusé. La nécessité de lire dans une langue et puis dans l'autre, c'est-à-dire en permanence d'opérer ce voyage entre ce qui est écrit et la façon dont cela peut être entendu et donc entendu différemment à chaque nouvelle génération.
Mais ceux qui écoutent cette émission et qui s'intéressent donc à l'histoire vont se dire c'est étrange parce que ça peut s'appliquer aussi au raisonnement historique. C'est la génération à venir qui donne naissance à l'histoire et c'est pas la transmission par les parents.
De façon troublante, en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire histoire. C'est une particularité de cette langue. Alors dans l'hébreu moderne, on dit historia, mais c'est un mot du grec. La façon dont la Bible parle d'histoire, elle dit toldot, ce qui signifie l'engendrement. On ne peut pas parler d'histoire sans concevoir le passage des générations, sans appeler ça l'engendrement. Et intéressons-nous même simplement à la façon dont on appelle les gens dans la tradition hébraïque. Vous savez, on est tous quelqu'un, fils de quelqu'un. Dans le nom hébraïque, on est tous nommés par notre filiation. Oui, mais voilà ce mot de filiation, fils ou fille, eh bien en hébreu, il signifie aussi bâtisseur, constructeur. Donc lorsque je dis que je suis un tel, fils d'un tel, en réalité, je ne dis pas que je viens de lui, mais je dis en même temps que je le construis, je le bâtis, moi sa descendance, je construis mon passé, je reconstruis mon ascendance. Ce qui est un renversement du temps.
Je ne vais pas faire le scrogneugneux, mais tout de même les générations qui viennent peuvent dire avec beaucoup de facilité quantité de naïveté.
Absolument, c'est pour ça que l'enseignement est clé, c'est pour ça que la répétition est clé, mais dans cet enseignement et dans le poids de ce qui leur est transmis, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part, ils sont ancrés quelque part et appartiennent à une histoire, eh bien il faut qu'ils soient capables, à l'horizon de cet enseignement, de la revisiter, de la questionner.
Alors à la question naïve que vous posez, c'est le titre de votre livre chez Grasset, « Comment les rabbins font les enfants », vous répondez par une histoire qui est issue, bien sûr, du IIe siècle, de l'époque du Talmud. Nous sommes en Babylonie et il y a un rabbin qui s'appelait Rav et un jeune étudiant qui s'appelait Kahana.
Oui, c'est une histoire assez amusante du Talmud. On raconte que donc Rav était le maître de Kahana et puis un jour, le maître est allé tout simplement se coucher avec sa femme dans sa chambre à coucher et son élève était caché sous le lit. Et voilà qu'il se rend compte de la présence de l'élève sous le lit et lui dit « Mais enfin Kahana, que fais-tu là? Ce n'est pas ta place. » Et l'élève lui répond « Mais ça aussi, c'est la Torah et je dois l'étudier. »
L'histoire s'arrête là. C'est aussi la genèse même, parce que quand on fait l'amour, on va donner naissance, il n'y a pas obligation de procréation quand on fait l'amour dans le judaïsme, on va donner naissance à des enfants qui permettront à Dieu de se manifester.
C'est-à-dire que les rabbins considèrent que ce qui se passe dans la chambre à coucher, ni plus ni moins, non seulement est sacré, mais est une forme de réitération de la Genèse. Alors vous vous rendez compte de la responsabilité qui pèse sur les épaules des uns et des autres. Ce qui se passe dans notre chambre à coucher, au cœur de l'intimité du couple, a quelque chose à voir avec la possibilité de recommencement du monde à ses tout débuts, parce que à travers ces âmes nouvelles qui pourraient venir au monde, c'est toute l'histoire qui pourrait changer.
Cole Porter, quand il a écrit la chanson que voici, interprétée par Kay DeLong, il s'appelait un peu Kahana. Je suis en amour avec toi, si je traduis un peu schématiquement.
Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the star. deceive me, desert me. I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love with you, my love, am I.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec notre témoin ce vendredi, Delphine Horviller, rabbin de la synagogue Beaugrenelle, juste en face de la maison de Radio France. Vous en êtes à votre deuxième livre chez Grasset, et dans le premier qui s'appelait En tenue d'Ève, vous expliquiez que d'aucuns disaient que quand une femme chantait, c'est comme si elle était nue, la nudité de la voix.
Oui, il se réfère pour ça à un verset du Talmud dont on parlait tout à l'heure qui suggère que la voix de la femme est une nudité. En réalité, c'est peut-être la voix tout simplement qui est une nudité. On l'a bien entendu dans la chanson. Il y a quelque chose de potentiellement très impudique ou de très révélant dans une façon de chanter. Il semblerait que le féminin soit associé dans la pensée religieuse à cette apparition de l'intériorité qui tout à coup surgit dans l'espace public et ça pose encore problème à certains.
On entendait tout à l'heure, je ne sais pas s'ils font partie des certains que vous évoquez, Delphine Horviller, Josie Eisenberg, le grand rabbin de France, c'est celui qui vous a formé quand vous étiez jeune dans l'Est de la France. Alors, quant à des personnalités de ce genre, vous vous ouvriez de votre projet, non pas de devenir rabbin, vous n'aviez pas cet horizon-là, mais de progresser dans les études juives, qu'est-ce qu'il vous répondait ?
Certains m'encourageaient, mais pour d'autres, c'était pas vraiment une option. C'est-à-dire qu'il y a environ une quinzaine d'années, lorsque j'ai commencé à envisager d'étudier de plus en plus sérieusement le Talmud, j'ai été confrontée à une problématique qui est encore une fois malheureusement présente dans notre pays. C'est que je ne trouvais pas de cours de Talmud où j'étais la bienvenue en tant que femme. Et il a fallu pour ça que j'aille outre-Atlantique, à New York, où c'est déjà une évidence, à la fois dans les mouvements libéraux, mais aussi dans le monde orthodoxe, que des femmes peuvent étudier tout comme les hommes. Mais les choses avancent plus lentement de ce côté-ci de l'Atlantique, il y a encore des résistances.
Mais
je crois que c'est au sein de toutes les religions, malheureusement.
Vous avez cette formule assez étonnante. Si les femmes avaient pris leur part du commentaire, eh bien la tradition serait radicalement différente.
Elle le serait. Non seulement parce que ce serait une entreprise de justice à l'égard des voix féminines, mais parce que je pense que quand les femmes prennent part à l'étude, eh bien c'est la pensée juive en général qui en est enrichie. De ma courte expérience, voilà, de quelques années d'études, à la fois avec des hommes et des femmes, des hommes et des femmes rabbins, des hommes et des femmes qui commentent le texte, je vois tout ce que ça apporte aux voix féminines du texte qui tout à coup sont libérées. On s'intéresse à des personnages différents, on les fait parler autrement, et c'est toute la pensée religieuse qui en est enrichie quand elle est nourrie et fertilisé à la fois par les voix du féminin et les voix du masculin, qui ne sont d'ailleurs pas toujours portées par les hommes ou par les femmes. Je pense que parfois les hommes portent très bien les voix féminines du texte.
Alors évidemment, il y aurait une solution, mais vous allez dire que c'est pas la bonne, c'est le travestissement. On entendait une chanteuse tout à l'heure qui aime bien avoir une apparence masculine, et vous faites plus d'une fois référence au récit de Singer, adapté au cinéma par Barbara Streisand, Yentl, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut aller dans une maison d'études. Elle se fait passer pour un garçon du nom d'Anschel.
Anschel, c'est mon nom, je m'appelle Anschel.
Enchanté.
Enchanté.
Messieurs les étudiants, les chariots pour le nord et l'ouest partent maintenant. Et maintenant, c'est tout de suite.
Hé, hey, Anschel, tu es sourd? Il y a une place avec nous si jamais tu te décides.
Ça y est, je suis décidé.
Non, Anschel. Le seul objet de nos études est de nous enseigner à vivre. Tout le reste est stérile.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Encore pourquoi ?
Vous permettez que je cite Hillel ?
Cite.
Eh bien, Hillel a dit, celui dont la sagesse augmente allonge
exactement
sa vie. Vous voulant dire qu'il n'y a rien de plus important que la
uniquement
sagesse.
Uniquement en tant que moyen d'une fin, la sagesse est le moyen, la vie, sa finalité.
Dans ce cas, est-ce que je peux poser une autre question ?
Pose.
pause.
Voilà. Si Hillel a dit que celui qui allonge ses études augmente sa sagesse et par conséquent allonge sa vie, alors...
Rabbi,
il n'est pas concevable de réfuter la
si
parole...
Mais si au contraire, en revanche, on le tolère à condition de ne pas la diffuser.
Utiliser le flanc gauche.
Alors, ce jeune homme est un grand poseur de questions.
On me l'a souvent dit, excusez-moi.
C'est d'après leurs questions surtout que nous choisissons nos élèves, et non uniquement leurs réponses. Bienvenue dans notre yeshiva.
Je suis admis. Je suis étudiant.
Mazel
Tov. Je suis étudiant.
Mazel Tov, bien sûr, si on pose des questions, on est le bienvenu. Mais il y aurait une solution que vous préférez, Delphine Orwiner, c'est que les hommes reconnaissent, vous l'avez suggéré, aussi leur part féminine, parce que si on lit le Cantique des Cantiques, est-ce que la fiancée, qui est le personnage central du Cantique des Cantiques, les hommes lecteurs ne s'assimilent pas à elle? Expliquez.
Non seulement ils s'assimilent à elle, mais la lecture la plus traditionnelle juive du Cantique des Cantiques, c'est que le personnage féminin de l'histoire n'est autre que le peuple des Hébreux. C'est-à-dire que les hommes en prière, lorsqu'ils invoquent la bergère du Cantique des Cantiques, ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont capables de se reconnaître sous les traits de ce féminin. Et c'est valable en bien d'autres moments du texte. Dans bien des textes prophétiques, il est question d'un rapport amoureux entre un masculin divin et un féminin des hommes en prière. Et puis il y a bien des moments dans le culte où les hommes sont capables d'investir les attributs de la féminité. J'en ai parlé dans mon livre Antony d'Ève très longuement, cette idée notamment de tous les matins, les hommes en prière posent ce qu'on appelle des téphilines, des phylactères sur les bras, sur la tête. Ils prononcent des paroles au féminin en enfilant ses diadèmes et ses bagues et ses bracelets. C'est une façon d'accepter que le féminin est requis dans l'accès au transcendant. La question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que les hommes acceptent de vivre cet élément de leur féminité dans la prière, mais bien souvent refusent aux femmes d'investir le monde qu'ils perçoivent comme masculin, à savoir le monde de l'étude.
Attendez, quand les hommes mettent des téphilines, les hommes très pieux, des phylactères là au bout des bras, qui s'enroulent les phylactères autour du visage, c'est comme une femme qui se pare de bijoux pour être mieux aimée.
C'est tout à fait cela, une parure, en réalité, dans laquelle on reconnaît que l'on est en train de se fiancer. C'est d'ailleurs les mots que l'on prononce au féminin, au moment où on enfile ses phylactères. On se fiance à l'éternel. Donc c'est un rapport d'épousaille avec le divin perçu comme masculin en cet instant. Le féminin dans lequel on entre est une posture de réception, la capacité à recevoir et à accueillir l'autre qui nous transcende.
Bon, je comprends bien que ce que vous dites peut trouver grâce et source dans la tradition, mais ça ne va pas trouver grâce face au traditionnalisme religieux qui prend des formes qu'on connaît bien dans l'islam, le christianisme, le judaïsme. Enfin, quand je dis les formes qu'on connaît bien, vous racontez quand même d'étranges histoires. Dans les parties hyper cachères de Jérusalem, les ultra-orthodoxes peuvent recommander aux hommes le port de lunettes de pudeur.
C'est-à-dire... Oui, il y a une certaine obsession de la pudeur, qui d'ailleurs est vraie dans tous les fondamentalismes religieux aujourd'hui.
Ça, mais c'est l'idée... quoi des lunettes de pudeur?
Des lunettes de pudeur, c'est un gadget dont les journaux ont parlé il y a quelques années, des lunettes qui troublent la vue, des lunettes qui vous permettent de voir flou de façon à ne pas être troublé par la vision et le spectacle des femmes qui pourraient croiser votre route. C'est tout à fait révélateur d'une obsession de la pudeur et d'une obsession de la pureté qui, encore une fois, est commune à bien des discours fondamentalistes aujourd'hui, qui ne parviennent pas à faire de la place au féminin dans leur monde.
Alors, puisqu'on parle du fondamentalisme maintenant au pluriel, je vais vous proposer un exercice qui nous a amusés à la marge de l'histoire. On va vous faire commenter un épisode du livre de Daniel, chapitre 13, qui est dans la Bible catholique, mais qui n'est pas dans la Bible hébraïque. Donc c'est un épisode que vous n'avez jamais commenté. Improvisation dans quelques instants par Delphine Orwiller. Je rappelle l'histoire. La belle Suzanne est au bain. Deux vieillards la considèrent de très près. Elle va refuser leurs avances. Ils vont la dénoncer au conseil. L'épisode a inspiré quantité d'œuvres, récemment le film Youth de Sorrentino, et puis autrefois bien les tableaux, dont celui du Tintoret, que va commenter ici l'historien d'art Gilbert Lascaux.
Luigi. What do you mean, who is she? Miss Universe.
Unrecognizable.
Ici, chez Véronèse, les vieillards sont venus très proches de Suzanne. on voit que l'un des vieillards commence à caresser le sein de Suzanne, qui elle, à moitié habillée, mais à mon avis, il n'y a aucun désir chez Suzanne. Elle s'étonne de ce que disent ses deux aînés. Pour moi, elle reste complètement chaste. Elle rougit peut-être un peu, comme si c'était un peu de honte. Chez Tintoret, Suzanne ne cherche à séduire qui que ce soit. Elle est indifférente et rêveuse. Les deux vieillards, eux, épient, mais quand même assez loin, Suzanne, qui est toute nue. Simplement, ce jardin est peut-être un jardin dangereux. Ce n'est pas du tout un jardin domestiqué. C'est un jardin qui n'est pas du tout clos. C'est un jardin assez grand et sauvage. Dans ce tableau, j'ai un peu l'impression d'un lieu un peu dangereux et de perdition. Et Suzanne a l'air de ne pas s'en rendre compte.
Ben oui, elle s'en rend pas compte. Par contre, le peintre, le cinéaste, constate qu'il n'y a que la femme qui reste nue.
Oui, on est là comme un retour au jardin d'Éden. C'est intéressant que dans l'extrait, on entend au tout début, je pense tiré du film Youf, on entend de l'eau qui coule dans nos traditions religieuses, plurielles. Eh bien, c'est bien souvent au bord de l'eau ou dans l'eau qu'ont lieu les plus grandes révélations. C'est l'élément transformateur par excellence dans nos traditions. Et là, on est de retour comme au jardin d'Éden, à un moment où l'homme et la femme sont encore nus, mais ne ressentent pas de honte. Il n'y a pas encore de séparation entre eux. On n'a pas encore renvoyer en ce temps la femme à ne représenter que le corps, que la sexualité, comme si tout entière, elle n'était que zone génitale, comme si l'homme était amputé d'une partie de son anatomie qui est la paupière, comme si l'homme
n'était pupille.
Voilà, la femme est génitalisée à outrance et l'homme, lui, de son côté, n'a plus de paupière.
Le judaïsme, dites-vous, c'est une religion du texte, mais aussi une religion du textile.
Il y a une histoire d'amour particulière entre les juifs et le textile à travers l'histoire, mais c'est pas un hasard que le mot texte et le mot textile soient de la même racine, dans bien des langues d'ailleurs. On est toujours en train d'effectuer sur le texte un surpiquage, et l'enjeu de la génération nouvelle, c'est d'hériter d'une fabrique, de regarder où ont été faits les points, et de continuer à surpiquer la matière.
Oui, parce qu'autrement le verset, il est tout nu, s'il n'est pas habillé de commentaire.
Autrement, il est tout nu, et malheureusement, ceux qui bien souvent s'érigent en seuls lecteurs fidèles du texte sont ceux qui en font les lectures les plus impudiques, ceux qui lisent le texte tout nu.
Merci à vous, Madame Le Rabbin, obsédée textuelle. Vos deux livres chez Grasset, le dernier, « Comment les rabbins font les enfants ». La préparation de cette marche de l'histoire, Martin Cellier, Marion Philippe à la technique, Juliette Delperroux, la réalisation, Stéphane Ronxin et Marie-Christine Thomas.